quand on considère le monde où nous vivons, je pense qu'il y a peu d'entre nous qui auraient été très contents de croquer à une pomme ou une banane bien mûre, un peu remplie d'autres choses qu'un bon fruit. Ou de faire un devis de construction et de trouver que le monsieur il vous a donné des prix exagérés. Ou encore de signer un contrat de travail, de trouver que le monsieur, le patron, il vous a changé les horaires, il vous a donné 5 heures supplémentaires. Ce sont des choses qui arrivent. Et je sais que certains parmi nous avons déjà expérimenté ces surprises qui sont assez désagréables. J'ai été surpris agréablement cet été d'écouter un économiste chinois qui enseigne à l'université en Chine, qui proposait que le christianisme est bon pour l'économie. Parce que l'économie, selon lui, se base sur les relations de confiance. Et quand deux individus entrent, s'engagent dans un contrat, ils se basent sur l'honnêteté et sur une relation de confiance. Et donc pour lui, il a proposé que, plutôt que d'écarter le christianisme du centre de la Chine, qu'avec l'essor économique en Chine, qu'il fallait plutôt le mettre au centre et d'établir des relations de confiance. La Bible a beaucoup à faire avec notre culture. Le christianisme a beaucoup à dire à nos jours, à nos temps. Nous entrons dans des crises et personne ne s'étonne plus de regarder les titres à la télé pour voir le prochain scandale, le prochain grand combien de millions d'escrocs, d'escroqueries. Un sondage demandé aux 100 exécutifs des 1000 plus grandes entreprises américaines. Quel est le problème qui vous dérange le plus chez vos employés? Au sommet de la liste était tout simplement la malhonnêteté, un manque d'intégrité. Une entreprise croit qu'un manque d'intégrité mine toute autre qualité que pourrait posséder son employé. En tête de la liste, si vous voulez aller voir les 6 autres, en ordre d'importance, l'irresponsabilité, l'arrogance, 3, l'absentéisme, 4, de ne pas suivre la politique de l'entreprise, 5, les plaintes, et 6, la paresse ou le manque d'engagement. Donc c'est un rapport en 1989. David, dans notre étude de sa vie, était choisi par Dieu parce qu'il possédait une qualité qui était citée par ses entreprises et ce sondage. Et cette qualité, au fond de lui, était un cœur intègre. Que quand on gratte un peu, on trouve au fond de ce jeune de 17 ans, ce berger, qu'il avait un cœur qui suivait Dieu et qui disait ce qu'il pensait, mais aussi qui vivait ce qu'il disait. Pour David, Dieu l'a choisi à cause de son cœur. À 17 ans, un cœur intègre, un cœur entier. Un cœur qui se présente, qui est clair, qui est sincère, ouvert, transparent, vis-à-vis de Dieu et des autres. Et à cause de cette qualité qui était inébranlable et qui allait être mise à l'épreuve rudement par des conflits et des batailles, Dieu l'a choisi, ce jeune homme. Et dans notre étude de la vie de David, qui est devenu un roi en Israël, un leader pour son peuple. J'aimerais humblement exposer ou chercher à exposer cette qualité pour vous, tout en me mettant un peu à son ombre. Un cœur intègre. Saul, son ennemi, est mort. Le roi, qui le pourchassait, qui le poursuivait, qui voulait le tuer, est mort en bataille, une ruine, avec deux de ses fils. Et maintenant, ce petit jeune est là. Il avait été loin par Samuel à 17 ans. Il a maintenant 30 ans. Il est 13 ans plus tard. Son ennemi est mort. Et que ce qui commence à se passer, c'est la réalisation de cette promesse. Tournez avec moi à 2 Samuel, au chapitre 2. 2 Samuel, au chapitre 2. David ne s'est pas précipité sur le trône. Ah, mon ennemi est mort. On va voir. Hein, monter en puissance. Regardons. 2 Samuel, chapitre 2, et le verset 1. Après ces événements, David consulta l'Éternel et lui demanda s'il devait aller s'installer dans l'une des villes de Juda. Et l'Éternel lui répondit oui. Dans laquelle dois-je y aller ? À Hébron. Et David s'y rendit donc. De nos jours, s'il n'y a pas de gens et un peu de chance, le train est là au bon moment, on arrive au feu au bon moment, la rame de métro est là au bon moment, la position s'ouvre au bon moment, et on passe. Parce que si on ne passe pas, il y a 10 millions de personnes derrière nous, et on passe. Mais pas David. David a dit, il consulta l'Éternel et il lui demanda s'il devait aller. Bien sûr, il y a des décisions, des choix qui sont simples. On peut y aller. Mais ici, c'était un choix qui ne le concernait pas uniquement lui-même personnellement, mais toute sa famille et tout un peuple. Et pour les grandes décisions, Dieu nous invite et on a de la sagesse pour nous arrêter, mettre ça un peu à plat et calmement, à tête posée, demander avec qui devrais-je me marier? Ce travail, devrais-je le prendre? Vous savez qu'il y a la lune de miel, mais après, dans les boîtes. Et ces grandes questions, Dieu nous invite à les mettre à plat, posément, pour les remettre à Dieu, pour que lui-même, il nous guide, il nous oriente, il nous aide. Et David ne s'est pas confié à lui-même, n'était pas un opportuniste, ne s'est pas dit, ah voilà, c'est mon occasion, c'est ma chance, allons-y. Non. Il a demandé à Dieu, devrais-je aller? Et Dieu a béni cet homme parce qu'il était en relation avec Dieu. Loin d'être arrogant, suffisant, je me fie à moi-même, fonçons, avançons. Il s'attendait à ce que Dieu le guide pour ce choix. Il était relativement jeune, 30 ans. Il demande. Et pour les grandes décisions, heureux la personne qui s'attend à l'Éternel, qui veut savoir si ce train peut en cacher un autre. Ce que Dieu veut, ce que Dieu en réserve, parce que Dieu promet les meilleures choses, les bonnes choses pour ceux qui s'attendent à lui. Et dans notre culture de l'instantané, de presse-bouton, de clic, bouton droite, bouton gauche, d'apprendre à attendre à Dieu est une très grande bénédiction. Et Dieu lui dit de monter à Hébron, qui était la plus grande ville de Juda, mais pas d'Israël. Il n'y avait pas toutes les tribus. C'était à quelques 30 km de là où il était, aux Philistines. Donc il passe. Et pendant ce temps, Dieu, il veut travailler en nous, il veut travailler en David. De nous donner le meilleur, pas de nous-mêmes, mais de lui-même. Et aussi, il veut travailler par nous et pour nous. Il est intéressant que le premier acte de David ait été de s'interroger, de demander des nouvelles sur le peuple qui a enseveli le corps du roi tombé, qui a fait une marche forcée de nuit pour ramener les cadavres, pour leur donner un ensevelissement correct et noble. Ce peuple n'était pas de Juda. Ce peuple appartenait au roi Saoul. Mais David ne présentait pas un peu la tarte pour la découper en sa faveur. C'était un homme de cœur, un homme qui était un leader parce que tout son cœur était à Dieu. Et il suivait Dieu, pas la politique, pas son intérêt. Et donc il envoie demander à ce peuple pour leur dire, vous avez fait un bel acte, venez avec moi, car Dieu m'avait promis le royaume. Malheureusement, ce peuple avait privilégié plutôt leur relation avec le roi Saul au lieu du roi Ouint, David, et a refusé. Qu'est-ce qui motive notre cœur? Quelle est la passion de notre vie? Qui sommes-nous quand personne ne nous voit? Pendant son temps sur le ranch, le président Theodore Roosevelt des États-Unis avait un cowboy qui avait attrapé un bœuf qui était au milieu, plutôt, qui se trouvait au milieu de la ranch, et qui était plutôt, par toute définition, donc propriété du voisin. Il a dit à M. Roosevelt, donc passe-moi le fer chaud. À notre animal. Il se trouve au milieu. Il se trouve plutôt d'être sur le terrain du rancheur de côté. Mais il ne va pas le savoir. Passe-moi le fer chaud. Du quoi, Roosevelt se lève, lui dit, pose-moi ce fer, prends vos effets et quittez le ranch. J'ai plus besoin de vous. Un homme qui volera pour moi, volera contre moi. Ou encore, l'exemple d'un pasteur qui était autrefois banquier. Il était nouveau, était jeune, et le patron lui dit, mais si monsieur un tel arrive, dites-lui que je suis pas là, je suis absent. Vous prévoyez partir? Sur quoi le patron se tourne vers le petit jeune et l'interroge, lui dit, à la colère, que ça c'est ses affaires, et lui, il devait apprendre à obéir. Sur quoi, le jeune avait la présence d'esprit pour répondre. Permettez-moi de dire que si moi, je ne m'entrais pas pour vous protéger, comprenez aussi que je ne m'entrais pas pour vous faire du mal. L'intégrité dans le lieu de travail, dans nos familles, devant Dieu, commence par cette patience qui met Dieu en priorité et qui met les principes et les barrières que de bonne conscience on ne franchira pas par l'aide de Dieu. Et c'est ça que Dieu a cherché. Et pourquoi Dieu l'a cherché, ce jeune homme? Entre-temps, le royaume d'Hébron à gauche, avec David, était divisé avec le royaume d'Ishbosheth, le seul survivant de la famille de Saül. Et pendant les 7 ans que David est resté à Hébron, Dieu a travaillé pour mûrir, pour mettre à l'épreuve, pour tester ce jeune, mais aussi pour le fortifier, et aussi pour travailler en Israël, pour préparer une unité, où il y avait 2 armées, à cause de la jalousie de Saül, qui en voulait à David à cause de sa vie, tout simplement. Et David a appris, pendant ses 7 ans à Hébron, de suivre Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu. Et Dieu lui-même s'occuperait aussi des affaires qui le concernaient. Tournez avec moi au chapitre 3 et le verset 6. Tant que dura la guerre entre la maison de Saül et celle de David, Abner, qui est l'ancien général de Saül, renforçant son influence dans la maison de Saül. Or, Saül avait une épouse qui a donné naissance à Ishbosheth. Et c'est là où Saül Abner cherche à rallier Israël contre David. Abner n'avait pas un cœur centré sur Dieu. Abner ne respectait pas les principes de Dieu. Abner savait qu'en tant que général de Saül, que tout était déjà parti, et que ses rois, David qui était roi comme roi. Pourtant, il cherche son intérêt. Il va chercher à se positionner. Donc il va prendre le dernier fils, qui n'avait aucun pouvoir, aucune influence, il va le mettre sur le trône d'Israël, il va dire, c'est moi qui suis le général. Et on va faire la guerre contre David, d'après tout, il n'a qu'un seul tribu, et nous sommes plusieurs. Et donc Abner, il se positionne, il se pistonne, il prend son destin en main, c'est un général. Et d'après tout, l'autre, il n'a qu'un tribu. Et c'est là où on voit tout à fait le revers de ce cœur de David. David qui n'est pas pressé pour attendre une promesse qu'il avait déjà attendue 13 ans. Et maintenant, il attend que Dieu il agisse. Il a fait la paix avec le peuple qui a ramené pour ensevelir le cadavre du roi vaincu. Mais Abner était un homme rusé, pas du tout comme David. Et finalement, quand Abner constate que Ishbosheth, ça ne va pas passer, il quitte ce camp et se rallie à David de nuit. Il va le retrouver alors que Joab, le général de David, est en campagne. Il lui dit, je vous ferai la paix, d'après tout, c'est toi qui es le roi d'Israël, j'amène Israël à toi. Joab, le général de David, qui arrive, apprend ces nouvelles, il fait revenir Abner, et dans l'ombre, il le poignarde. David dit, c'est pas mon affaire, c'est pas moi qui l'ai fait. Il demande à tout Israël de pleurer sur Abner, le général d'honneur qui est tombé. C'était pas lui, c'était pas David, c'était pas Manigancé. Il était innocent. C'était un homme qui voulait être irréprochable dans sa vie, dans toutes ses circonstances. Mais autour de nous, dans notre vie de culture et de politique, on voit des gens qui se positionnent qui manigancent, qui prennent le destin en main, parce que ils vont gagner. N'oublions pas qu'il y a un Dieu. Un Dieu qui reste Dieu. Il reste souverain. Et c'est son honneur et sa gloire qui est en jeu. Chers frères, chers amis, nous sommes appelés à être un peuple aimé, un peuple aussi béni, et un peuple qui va bénir les autres autour de nous. Et on a encore besoin d'hommes et de femmes, de jeunes et d'enfants, qui mettent les principes et qui mettent Dieu plus haut, qui l'élèvent au-dessus de ses propres intérêts. Abner, le général, est tombé. Et Joab a créé la honte. Et ce n'est qu'en marchant avec Dieu que nos cœurs arrivent à aller vers ce qui est bon. Et Dieu lui-même, qui est bon, assure pour sa gloire cette bonté, ce qui est précieux pour nous, pour son peuple. Nous voyons ici par l'intégrité de David que David a fait de sorte que il ne s'est pas précipité pour prendre en main son destin, pour agir pour son intérêt personnel. C'était un roi intègre. Et la seule façon de l'être, c'est de mettre Dieu et ses intérêts, de les élever au-dessus des nôtres. Et Dieu bénira. Le temps avec Saül était un cauchemar pendant 13 ans pour le pays et pour David, qui était un homme intègre, un vaillant guerrier. Mais Saül l'a mené une haine et des années de ruines, de conflits, de turbulences. Et David, qui ne cherchait que de réconcilier, que de guérir, que d'unir, a trouvé plutôt que Dieu avait béni. Voici Jérusalem, la cité de David, la tour de David. On ne voit pas de l'autre côté, mais sur trois fronts, il y a des vallées. C'était une ville imprégnable. Or, les gens avant David, les Jébusiens, avaient dit que c'était une ville que même les aveugles et les boiteux pouvaient défendre. Donc David, avec ta petite armée quelconque, il faut mieux rester chez toi. Et David avait choisi donc Jérusalem, qui était entre les deux tribus, entre Juda et entre Israël. Il savait qu'il y avait une citerne, un puits qui montait, qui allait monter en eau, la ville. Il donne à ses soldats, il dit, mais celui qui monte, il sera général en chef de tout Israël. Et c'est Joab, ce général, qui est monté. On voit Jérusalem au milieu, on voit le premier royaume de David. Maintenant, on voit que David, par son intégrité, par le fait qu'il n'a pas agi par colère ou par haine ou par vengeance ou par intérêt personnel, il a su unifier le pays et leur donner une vision qui était digne du peuple de Dieu. Et leur donner le pays. Et quand nous suivons Dieu, Dieu bénit, parce que nos cœurs sont droits, et le monde cherche pas les escrocs de 56 milliards d'euros, de dollars, comme Markov, le monde cherche des personnes qui croient vraiment et qui seront utiles vraiment. vont les conduire vers ce qui est bon et utile et juste. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle à avoir ce cœur d'intégrité. Parce que c'est ce que Dieu bénit. Le psalmiste avait dit, Dieu a choisi pour lui-même David derrière la bergerie. Il avait pris cet homme intègre, il avait nommé responsable de son peuple, qui il les a conduits avec des mains intelligentes. À quoi votre cœur est-il attaché? Engagé? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Parce que ce à quoi nous sommes engagés et attachés va déterminer ce que nous deviendrons. Et David était intègre et attaché à Dieu, à ses principes. Il était jusqu'ici inébranlable. Il est suivi de tout son cœur, sans son intérêt personnel, pour la gloire de Dieu et pour le bien. Et Dieu veut bénir. Il cherche des canaux propres, purs, des instruments, nous-mêmes, par qui il peut déverser autour de nous sa bénédiction, sa paix, sa grâce, sa force pour vivre. Sous Saoul, Israélite, ici en vert, sous David, Israël, elle s'est multipliée en superficie 10 fois. David n'a pas cherché. Ce n'était pas un commerçant. C'était quelqu'un qui aimait Dieu. Et Dieu l'a béni. À cause de son intégrité. Voici les routes du commerce qui sont ouvertes. De haut vers la Phénicie, la Syrie, l'Égypte vers le bas, parce qu'il y avait de la stabilité, il y avait de la paix, il y avait de la confiance. Et je vous encourage, je vous exhorte de chercher à devenir une telle personne que Dieu peut bénir et se servir pour bénir d'autres. Parce que Dieu veut bénir. Malheureusement, il y avait un côté ombre aussi dans la vie de David. Et quand il est monté avec ses 6 enfants et ses 6 femmes. Il avait Narem, il avait donc combien et jusque quand la convoitise serait-elle limitée? Et même quand il y a des moments de prospérité, viennent aussi parfois des moments de, où on relaxe un peu sa vigilance. Il y a un peu le laisser aller. Et c'est aussi le cas pour David. Dieu veut nous confier une bénédiction et sa richesse et sa bonté. Mais il cherche des hommes et des femmes qui soient droites, fermes, aimants, compatissants, à qui il peut donner cette bénédiction pour que eux, à leur tour, quand ils sont bénis, à l'aise, prospèrent, qu'on ne devient pas indolent et qu'on brade la bénédiction plutôt que celui qui nous bénit. C'est pas facile, pas du tout facile. Mais Jésus-Christ, comme nous avons célébré ce matin, sa mort et sa résurrection pour nous, lui est engagé pour vous. Lui, il a déjà montré à quel point il est engagé pour nous. Pour nous faire devenir des hommes et des femmes intègres. Pour nous transformer de l'intérieur, pour nous donner par son esprit, par son pardon, cette liberté de ne pas chercher nos petits intérêts éphémères et égoïstes. Mais plutôt de lui permettre de nous changer, de nous donner un cœur qui lui ressemble et où il y a la place dans l'humilité, dans l'intégrité, dans l'amour, comme Jésus-Christ a démontré, pour aimer les autres et pour conduire les autres. Je ne prétends pas arriver. Et quand je regardais ce thème et quand je regardais à la fois la vie de David, sa hauteur, cette hauteur, mais aussi sa chute, il y a un appel pour ce qui est bon, mais aussi des mises en garde, surtout du côté de la famille. Notre vie professionnelle, la va-vite, peut être tellement prenant qu'on peut ne pas donner le temps de veiller aussi sur notre foyer. Et que Dieu nous vienne en aide. Il est aussi Père pour que nous-mêmes nous soyons aussi à la hauteur en tout. Nous ne suivons heureusement pas des principes, mais une personne, Jésus-Christ, qui nous aime, qui se donne à nous, et Dieu aussi qui veille sur nous pour notre bien et pour nous bénir. On vient d'élire un président, on vient d'instituer un président des États-Unis noir. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis. Comme vous le savez, il y avait avant lui Martin Luther King, qui a milité pour les droits des Noirs, qui étaient bafoués. Il y avait aussi de l'esclavage. Mais il y avait un président blanc qui avait lutté aussi pour l'esclavage. Et qui avait dit, si je perds tous les amis, sauf un, moi je suis satisfait. Et cet ami, c'est moi et Dieu. Et quelque part, que nous soyons dirigés par des principes qui transcendent notre culture, qui dépassent les flots autour de nous, l'ambiance autour de nous. Booker T. Washington, un noir, écrivait qu'en Ohio, il y avait un esclave affranchi. Mais quelques années avant la proclamation d'émancipation, il avait contracté avec son patron, avec son... que lui, il rembourserait pendant 3 ans, année après année, l'usage de son corps. Il voulait être libre. Un an après avoir signé, l'émancipation, la proclamation d'émancipation a été proclamée, a été donnée. Et cet esclave descend de l'Ohio à Virginie pour donner le dernier dollar à son patron, à son maître, bien qu'il soit homme libre. Et il a dit, parce que je suis un homme de ma parole. Et ça, c'est ça que l'homme, que Dieu bénit. Et je crois que c'est ça que le monde autour de nous, désespérément, a besoin et cherche. Et que Dieu agisse dans nos vies pour donner cette liberté de le suivre, pour que quelque part, notre trace dans l'histoire soit là où Dieu passe. Et Dieu laisse aussi des hommes et des femmes qui sont meilleurs. Mais garde nos cœurs, les tentations sont rudes. Et même quand il y a la facilité, attention à l'indolence qui guette quand on baisse sa garde. Recevez ces paroles au nom de Christ. Père éternel, nous voulons te remercier pour Jésus-Christ, l'unique saint homme qui a jamais vécu. Et lui, il a donné sa vie pour nous. Et je te remercie pour lui. Et je prie que nous devenions comme lui. Par ta grâce uniquement, parce que déjà tu commences ce travail dans nos vies, à éveiller dans nos consciences, à marcher autrement que ce monde, que la culture ambiante, que de ne pas prendre dans nos mains notre destin qui est sûr, qui s'atteint à échouer. Mais au contraire, de suivre celui qui nous dépasse, de t'aimer de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, toute notre pensée, d'aimer notre voisin, notre prochain, comme nous-mêmes. Et louange soit à toi, parce que tu nous appelles à une vie élevée, pour nous bénir, et pour faire de nous aussi une source de bénédiction pour ce pays, pour nos familles. Et j'aimerais simplement évoquer ta grâce, ta miséricorde, sur tout un chacun de nous, afin que ton plan, même dans la patience, dans la persévérance, se réalise pour nous, et que cette bénédiction vienne, et qu'un pays où il y a chaos, méfiance, brisement, nous puissions voir guérison, rétablissement, ta grâce et ta force. Au nom du Christ, seul, nous te le prions. Amen.